Le journal Loïc Barrière. Des manifestations dans toute la France contre les violences faites aux femmes. Nous écouterons Dounia Kouchari. Cette lycéenne de Seine-et-Marne a fait partie des milliers de personnes qui ont défilé à Paris pour dire non à ces violences. Comment se défendre quand on est victime de violences de la part d'un conjoint ou d'un ex-conjoint? Les conseils juridiques de Maître Sarah Saldman, avocate et auteure du livre « Tout pour se défendre, mes droits, mode d'emploi » aux éditions Robert Laffont. En Syrie, les mines ont tué 19 personnes depuis le début du mois. Au Soudan, les opposants au coup d'état militaire appellent à de nouvelles manifestations ce dimanche. Le ministre français Bruno Le Maire entame dimanche une visite de 2 jours aux Émirats Arabes Unis. En Libye, le président du Parlement, proche du maréchal Haftar, annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Enfin, un rapport sur l'aide sociale à l'enfance à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. 2 ans après le Grenelle contre les violences conjugales, des manifestations ont eu lieu à Paris et dans plusieurs villes de France pour dénoncer les violences contre les femmes. En France, 220 000 femmes sont victimes de violences et 94 000 sont violées chaque année, selon le collectif Nous Toutes. En 2019, 152 femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, affirme le collectif. Dans le cortège parisien, ce samedi, plusieurs responsables politiques comme Yannick Jadot ou Anne Hidalgo, mais aussi des milliers de jeunes. Une lycéenne de Seine-et-Marne, Dounia Kouchari, a participé à sa première manifestation ce samedi. Elle nous explique les raisons de sa présence aux côtés du collectif Nous Toutes.
Pour déjà grossir les rangs de la manifestation pour que ça ait plus d'impact et que les gouvernements et les médias enfin, ils prennent conscience que les féminicides, l'inceste, la pédocriminalité, les violences sexistes et sexuelles, bah, ça existe et qu'il faut y remédier. Et justement, je pense que c'est important d'y participer. Et plus il y a de monde, plus ça a d'impact.
Alors, vous êtes lycéenne. Il y a beaucoup de lycéens dans cette manifestation?
Oui, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi des hommes, il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a un peu de tout.
Pourquoi faut-il toujours rappeler l'importance de ces violences? Pourquoi il faut médiatiser ces violences?
Parce que sinon ça s'arrêtera jamais et il faut pas que ça passe sous le tapis, il faut pas que ça reste silencieux et que les femmes restent des victimes sans que leurs agresseurs soient jugés. Et donc c'est pour ça qu'on doit toujours en parler pour pas que ça reste inconnu du grand public et que ça reste qu'une légende alors qu'au final ça en fait... répandu dans notre pays et même à travers le monde.
C'est un sujet dont vous parlez dans votre lycée avec vos amis?
Oui, assez souvent.
C'est un sujet qui est évoqué aussi par les enseignants?
Non. D'ailleurs, normalement, on doit avoir trois séances d'éducation sexuelle qui parlent de consentement, des violences et d'harcèlement. Mais au lycée, ils en font pas, ce qui est contraire à la loi. Donc en fait, on n'en parle pas vraiment.
Vous avez le sentiment aussi que les jeunes sont plus attentifs à ces questions que les anciennes générations?
Oui, j'ai l'impression, parce que je vois plus de jeunes se mobiliser, même s'il y a quand même des personnes, des femmes âgées et des hommes âgés, mais oui, plus des jeunes.
Vous voyez ce sujet émerger notamment sur les réseaux sociaux du type Instagram ou TikTok?
Oui, beaucoup de filles racontent... leurs histoires d'agression, où elles se sont fait violer, ou même elles ont porté plainte, mais la police n'a pas voulu prendre leur plainte. Et tout ça, elles les racontent sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où elles se sentent le plus écoutées.
Est-ce que c'est difficile pour une jeune fille de marcher dans la rue, d'aller à Paris quand on habite en banlieue? Est-ce qu'on peut se sentir en sécurité à toute heure de la journée?
C'est pas difficile dans le sens où Paris est bien desservi, mais il y a toujours un sentiment d'insécurité et c'est pour ça que j'y suis pas allée seule, j'y suis allée avec des amis. Mais oui, enfin, y a aller seule à Paris, c'est en tout cas pour moi, je me sentirais en danger.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu lors de cette manifestation? Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
Il y a des personnes qui jouent de la musique, il y a un gros rassemblement avec plein de pancartes qui racontent la transphobie, les agressions sexuelles. Et voilà.
C'est votre première manifestation ?
Oui.
Comment ça s'est décidé ?
C'est sur le groupe Instagram de l'organisation féministe Nous Toutes que j'ai su qu'il y aurait une manifestation ce jour-là. Et du coup, j'ai voulu y participer pour agir concrètement pour la cause.
Dounia Kouchari, lycéenne en Seine-et-Marne. Je vous propose à présent d'écouter l'avocate Sarah Saldman. Elle défend des femmes victimes de violences conjugales. Elle est également co-auteure du livre « Tout pour se défendre, mes droits, mode d'emploi » aux éditions Robert Laffont. On l'écoute.
Je tiens à préciser que les violences faites aux femmes peuvent absolument toucher tout le monde, dans un premier temps. Ensuite, les recours peuvent être pluriels. Il y a des recours juridiques. Bon, et comme je suis avocate, je vais surtout parler de ces recours-là. Et finalement, on a un arsenal juridique qui est assez fourni, mais qui est aussi assez méconnu. Et c'est toute la problématique à mon sens. Donc nous avons l'ordonnance de protection, qui est une procédure d'urgence, où la victime de violences conjugales peut saisir le juge aux affaires familiales, qui statue dans un délai très court puisque le résultat est donné dans un délai maximal de 6 jours à compter de la fixation de la date d'audience. Pour cette procédure, il faut démontrer des violences vraisemblables. Mais il faut aussi, comme son nom l'indique, puisque ce sont des violences conjugales, qu'il y ait soit un concubinage ou ancien concubinage, ça veut dire que l'on peut attaquer finalement son ex, partenaire de Pax, ou ancien partenaire de Pax, ou époux, ou ex-époux. Et pour faire cette demande, il faut naturellement apporter des preuves. Et c'est toute la difficulté du dossier. Et finalement, ce qu'il faut dire aux victimes, c'est que toutes les preuves, à une limite près, qui est la loyauté de la preuve, sont recevables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'on peut apporter des certificats médicaux, qui peuvent être délivrés soit par un médecin généraliste qu'on connaît, soit par les unités médico-judiciaires, si on a déposé plainte. Mais ce que je tiens aussi à préciser, c'est que le dépôt de plainte n'est pas un prérequis pour solliciter une ordonnance de protection. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, très important de le dire, parce qu'il y a des victimes qui viennent me voir et qui me disent « Mais est-ce que je peux demander une ordonnance de protection parce que j'ai que des mains courantes, mais j'ai pas de plainte ?» La réponse est oui. Mais la difficulté va être de prouver ces violences. Et le juge aux affaires familiales se fonde sur un faisceau d'indices.
Alors, vous parlez de la main courante. Certaines femmes sont incitées à faire une simple main courante au commissariat plutôt que de porter plainte. Est-ce qu'une main courante sert à quelque chose ?
Alors, une main courante, c'est un élément de preuve, mais ça ne met pas en mouvement l'action publique. Là, vous dites quelque chose de très intéressant, c'est que certaines femmes, quand elles poussent la porte d'un commissariat, ce qui est déjà une épreuve en tant que telle, on leur dit « Madame, vous, c'est pas une plainte, c'est une main courante ». Mais un officier de police judiciaire n'a pas à dire ça, il n'a pas à apprécier du bien fondé ou du mal fondé d'une plainte. L'article du Code de procédure pénale est très clair à ce sujet. Il doit prendre toutes les plaintes. Et c'est pour ça qu'il serait peut-être opportun qu'un avocat puisse, dans tous les cas, assister une victime dans ce cas-là. Parce que moi, quand ça m'arrive et que je téléphone au commissariat et que je dis « Ah ben, je comprends pas, vous avez refusé de prendre la plainte », ils me disent « Non, non, maître, il y a un quiproquo, on accepte, il n'y a aucune difficulté ». Donc ça, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là, parce que ce n'est pas à une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police d'accepter ou de refuser une plainte, ils doivent l'accepter dans tous les cas.
Quel conseil donnez-vous à une femme pour se protéger physiquement, pour ne pas risquer de décéder sous les coups de son conjoint ?
Alors, quand on en arrive à avoir peur pour sa propre vie, la seule solution, c'est de quitter le domicile conjugal, et sachant que le juge aux affaires familiales, dans le cadre d'une ordonnance de protection, peut attribuer le logement, le domicile conjugal au demandeur, c'est-à-dire à la victime. Et parce que souvent les victimes, enfin souvent, ça peut arriver, c'est pas souvent, mais parfois, la victime est dépendante financièrement de la personne. Donc elle se dit, mais si je pars, je pars avec quoi ? C'est encore une autre difficulté. Et le juge aux affaires familiales peut attribuer le logement à la victime de violences conjugales et condamner monsieur à prendre en charge les frais afférents. Il y a aussi des logements d'urgence, et sinon il faut partir chez un proche et ensuite entamer les démarches. Mais quand on en est à avoir peur pour sa propre vie, Il faut absolument fuir.
Vous souhaitez un déploiement plus rapide et plus massif du bracelet anti-rapprochement qui permet aux victimes d'être alertées en cas de menace immédiate pour elles?
Ah oui, bien sûr, je pense que c'est une mesure tout à fait pertinente. Alors après, c'est un dispositif qui est entré en vigueur en septembre 2020, donc on n'a pas encore finalement assez de recul. Mais à mon sens, c'est vraiment une mesure qu'il faut déployer et surtout informer les victimes que ça existe, parce que la difficulté, elle est là. Si on a un arsenal juridique fourni, mais que les victimes ne sont pas informées, c'est la même chose pour le téléphone grave danger, eh bien, la mesure est tout à fait relative. Donc, je crois que dans le cadre de cette journée aussi, il faut rappeler les mesures qui existent, dont celles que vous venez d'évoquer.
Dernière question, vous avez constaté dans votre cabinet une augmentation des violences faites aux femmes depuis le début de la crise sanitaire ?
Je dirais surtout pendant la crise sanitaire, maintenant que la crise sanitaire n'est pas terminée, mais qu'il n'y a plus de confinement, je trouve que c'est revenu sensiblement comme avant, peut-être avec une légère hausse, mais c'était surtout pendant le confinement, puisqu'il y avait un huis clos, et toutes les victimes qui avaient, je dirais, un moment de liberté avec leur bourreau, se sont retrouvées littéralement en huis clos, ce qui a de facto augmenté les violences conjugales. Après, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut, c'est pas, à mon sens, regarder s'il y a une augmentation ou pas, c'est vraiment viser la baisse et qu'il n'y ait ensuite plus de violences conjugales.
L'avocate Sarah Saldman, elle a écrit avec le bâtonnier de Paris Olivier Cousy, Tout pour se défendre, mes droits, mode d'emploi, aux éditions Robert Laffont. Et les femmes victimes de violences peuvent appeler le 3919 ou le 17 en cas d'urgence. En Syrie, les mines tuent. Depuis le début du mois, 19 civils ont été tués dans l'explosion d'engins laissés sur le territoire syrien par les parties en conflit. Plusieurs enfants font partie des victimes. Une cour constitutionnelle voit le jour en Algérie. Elle remplace le Conseil constitutionnel. Ses membres ont prêté serment à Alger jeudi. Nous y revenons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
Cette cour constitutionnelle est prévue dans la nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum le 1er novembre 2020. Et donc le président et les membres de cette cour ont prêté effectivement serment en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux Abdelrachid Tabi, le conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires Boualem Boualem, et la présidente du Conseil d'État, Farida Benyahia, et les membres ainsi que des magistrats. L'audience de prestation de serment a été tenue en application des articles 186 de la Constitution, et donc aussi aux correspondances, en application de la correspondance 676 du 16 novembre courant émanant du secrétaire général de la présidence de la République portant organisation d'une audience en prestation de serment. Alors pour les membres, les nommés, il y a des membres qui sont donc nommés par le président de la République, ceux qui sont élus, et il y a aussi des professeurs de droit constitutionnel au niveau national. Pour les professeurs, donc on a choisi l'une des meilleures constitutionnalistes en Algérie qui est Madame Fatiha Ben Abou en tant que membre. Elle est aussi dans la même liste, il y a Abdelwahab Khrif, Abbas Ammar, Abdelhafiz Ouskine, Omar Boudiaf et Mohamed Boufartas. Tous sont des professeurs en droit constitutionnel. Pour les élus, il y a un élu pour la Cour suprême qui est M. Djilali Miloudi et un autre du Conseil d'État qui est M. Ameldine Bounenouar. Maintenant, pour les nommés par le président, donc les membres de la Cour constitutionnelle nommée par le président, il s'agit de M. Omar Belhaj, qui est président donc, de cette Cour, Leïla Aslaoui, qui est un ancien ministre qui était à l'époque de Liamé Zerouel, et ancien ministre de la Cité des Sports, elle est aussi magistrate, il y a aussi M. Bahri Saadallah, et M. Masbah Mennes, qui était un professeur de droit à l'université d'Alger. Donc après cette installation, cette Cour va commencer son travail, elle va remplacer le Conseil constitutionnel qui, lui, habituellement valide les résultats des élections, contrôle les lois adoptées par le Parlement, par les deux chambres du Parlement, se prononce aussi sur les décisions émises par le Président quant à leur action dans le droit algérien.
Et justement, quelles seront les différences fondamentales entre le Conseil constitutionnel et cette nouvelle Cour constitutionnelle qui remplace donc le Conseil?
La grande différence, c'est que le Conseil était nommé, l'ancien Conseil qui était nommé entièrement par le chef d'État. Là, il y a des élus, C'est des élus donc au nom de la Cour suprême et du Conseil d'État, et aussi il y a des professeurs de droit. C'est vrai que dans l'ancien Conseil, il y avait aussi des professeurs, mais là, on a des spécialistes qui sont plus ou moins indépendants par rapport au pouvoir exécutif, et donc les prérogatives sont élargies de cette Cour constitutionnelle qui va se prononcer sur les lois, voter sur les résultats des élections, la validité des candidats aux élections, se prononcer donc sur beaucoup de décisions émanant de l'État et émanant donc des hauts responsables de l'État, le chef du gouvernement, le président de la République. Elle aura plus de prérogatives et plus de marge de manœuvre par rapport au Conseil constitutionnel. Donc cela a été donc présenté lors du débat sur la réforme constitutionnelle comme une grande avancée du droit constitutionnel en Algérie.
C'était Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, au micro de François-Xavier de Calonne. Au Soudan, des opposants au coup d'État militaire appellent à de nouvelles manifestations ce dimanche pour réclamer le retour du pouvoir civil. La répression de ces manifestations a fait au moins 40 morts depuis le putsch il y a près d'un mois, dont 15 pour la seule journée de mercredi. En Libye, 24 candidats à l'élection présidentielle du mois prochain, dernière personnalité en date à avoir déposé sa candidature, le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, âgé de 77 ans, il est proche de l'homme fort de l'est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar. Plus de 2,83 millions de Libyens sur 7 millions d'habitants se sont inscrits pour voter. Bruno Le Maire en visite dans le Golfe ce dimanche. Le ministre français de l'économie est attendu à Abu Dhabi. Il se rendra ensuite à Dubaï lundi. Il évoquera la coopération entre la France et les Émirats arabes unis dans les domaines de l'espace, de l'énergie et des semi-conducteurs. Le chanteur syrien Omar Suleyman a été libéré par les autorités turques. La star de l'électropop syrienne, réfugiée en Turquie depuis des années, avait été arrêtée jeudi. La justice turque l'accuse de propagande terroriste pour ses liens présumés avec des forces armées kurdes. Ce 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, un rapport a été remis au secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet. Un millier d'enfants placés ont donné des pistes pour améliorer leur quotidien. Les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance demandent à pouvoir partir en vacances avec leur famille d'accueil. Ils veulent aussi avoir accès à des sorties culturelles. Le rapport évoque également la situation des jeunes majeurs qui se retrouvent livrés à eux-mêmes après avoir été suivis durant leur enfance par les services sociaux. Cette édition est terminée. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 23h est Samira El Hayashi pour son livre « Le ventre des hommes », un roman paru aux éditions de l'Aube. Rediffusion de cette émission dimanche à 19h. Excellent week-end à tous.